Donc aujourd'hui, comme convenu, nous allons nous entretenir de l'autorité dans l'éducation. C'est un aspect de l'éducation. Évidemment, dès qu'on fait un cycle d'instruction, on parle des choses les unes après les autres. On ne veut pas parler de tout à la fois. Donc évidemment, en parlant de l'autorité, on développe un aspect de l'éducation, qui est un aspect très important, mais c'est un aspect. On ne prétend pas par là que toute l'éducation se réduit à une question d'autorité, même si, évidemment, c'est très important. Donc, qu'on ne s'étonne pas si, par exemple, il y aura certaines choses qui seront moins, sur lesquelles on passera plus vite, ou ce n'est pas parce qu'on les considère comme négligeables ou secondaires, mais c'est parce que quand on parle d'une chose, on ne peut pas parler des autres. En même temps, est-ce qu'on a un rapport ? La question d'autorité, si on... C'est pas mieux comme ça, vous dites. La question d'autorité, si il paraît nécessaire d'en parler, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une question cruciale. On peut dire que la crise que l'on vit, on peut toujours lui trouver, l'analyser sous bien des rapports, mais c'est sans aucun doute que le manque de foi dans l'ordre surnaturel est une des marques de la crise dans laquelle nous vivons. Mais dans l'ordre à la fois naturel et surnaturel, il y a un très grave problème d'autorité. Ça, je crois que c'est patent. Il y a un très grave problème d'autorité. Et donc, il importe que nous ayons une claire conception d'autorité, de l'autorité dans l'éducation, pour bien concevoir les choses et ensuite les mettre en pratique. Lorsqu'on parle d'une chose et lorsqu'on l'expose, en général, on essaie de développer les différents aspects de façon équilibrée, proportionnée au sujet que l'on expose. Mais pour être vraiment prudent, il me semble qu'il faut aussi tenir compte des circonstances dans lesquelles on est. Or, dans les circonstances dans lesquelles on est, l'autorité souffre particulièrement sous certains rapports. En particulier, manque de confiance en l'autorité de la part des sujets, de qui ont l'autorité, de la part de ceux qui en bénéficient, parce que c'est un bénéfice l'autorité, on bénéficie de l'autorité de celui qui nous est supérieur. Donc il y a une crise d'autorité, on n'a plus confiance en l'autorité. Donc il est clair que pour nous adapter à la situation présente, je vais insister davantage sur la nécessité de donner une importance plus forte à l'autorité, d'avoir plus confiance en l'autorité, plus conscience de l'autorité, et de revendiquer les droits de l'autorité. C'est un besoin qu'on aurait peut-être eu moins au XVIIe siècle, mais nous ne sommes pas au XVIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et donc il faut insister davantage là-dessus. Alors, commençons par le premier point. Premier point, c'est la nature de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité dans l'éducation ? Nous irons assez vite, parce que je voudrais que cette conférence soit assez concrète, comme on dit. L'autorité, ça vient de auctor, ça veut dire agir. L'autorité, en philosophie, on dirait qu'elle est cause-efficiente. L'autorité, c'est ce qui constitue le chef. Dans toute société, il faut un chef. Une société sans chef périt. C'est évident. Lorsqu'on a n'importe quel groupe humain qui décide de mettre en œuvre un projet, ne serait-ce que le projet d'aller passer des vacances à la Guadeloupe, eh bien, lorsqu'il y a un désaccord, ou bien on fait des concessions de part et d'autre, évidemment, si on a un petit groupe, si c'est une petite durée, ça peut marcher, mais pour une longue durée, pour un gros groupe, ça ne peut pas marcher, il faut que quelqu'un décide. Alors, dans certaines sociétés, c'est par convention. Par exemple, on élit des présidents, directeurs généraux pour les entreprises. Eh bien, dans les sociétés naturelles, ça n'est pas par convention, au moins pour le pouvoir lui-même, par la désignation, c'est autre chose, mais pour la famille, eh bien, c'est par nature. Hein, le père est celui qui a autorité sur sa famille. Et la mère, comme associée. Donc, dans la famille, il y a une autorité. Et cette autorité, on l'avait déjà vu lors de la première instruction. Comme la famille est naturelle, l'autorité du père est naturelle. Et lorsque la famille est chrétienne, il a aussi une autorité surnaturelle. qui lui vient des délégations, comme on l'avait vu, de l'Église. Il y a donc un double titre à l'autorité sur sa famille. Et toute autorité vient de lui. Omnis potestas adeo. C'est saint Paul qui dit. Donc, l'autorité, le fait d'être chef, ça vient de Dieu. Je me rappelle quand j'étais à Saint-Joseph-des-Carmes, nous avions eu, dans une école, nous avions eu des difficultés avec un garçon qui était venu très très tard sur l'école, puis ça s'était très mal passé. Et alors il est parti, et nous avons un peu, comment dire, mis un peu d'ordre dans ses affaires, et je suis tombé sur un texte, sur un petit mot qu'il avait rédigé, des petites réflexions au moment où il y avait une crise avec un prêtre de l'école. C'est pas moi, c'est un autre prêtre. Il disait, je ne supporte pas ce prêtre, pour telle et telle raison. Et en particulier, il y a quelque chose que je ne supporte pas chez ce prêtre, c'est que quand il exerce l'autorité, on a vraiment l'impression qu'il la tient de Dieu. C'est un éloge magnifique. Mais pour lui, c'était un reproche. Bien, parce que ce prêtre, effectivement, avait un sens très fort et bien de la divinité de son autorité. Le Père, lorsqu'il se sert de son autorité, il peut dire, je suis délégué par Dieu. Alors ça ne lui donne pas tous les droits, mais ça lui montre l'origine réelle de son autorité et il ne doit pas sourciller, il ne doit pas avoir peur. Lorsqu'il agit, c'est comme si le bon Dieu agissait. Le bon Dieu lui a délégué son autorité. Et la mère, c'est pareil. Donc c'est très important cette origine divine de l'autorité. Parce que c'est l'origine divine du chef. Le père est chef. Évidemment, être chef dans une société comme la famille, ça n'est pas être chef comme dans une autre société. Parce que le père est chef, mais il est aussi père. C'est-à-dire qu'il est chef et il donne la vie à celui dont il est le chef. Ce qui donne un tour très, très, très particulier à l'autorité dans la famille. Emprunt de beaucoup plus d'amour qu'il peut y en avoir dans une autre société. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de dévouement. La famille est un chaud cocon. Et donc l'autorité va se manifester de façon évidemment très différente. Si le père n'avait que comme conception de son autorité « je suis le chef, point barre », ce serait un peu mince. Oui, vous êtes le chef, mais vous êtes un chef particulier, vous êtes père. Le rôle du chef, c'est qu'il doit pourvoir au bien commun de la société. C'est-à-dire que le chef de famille doit, en tant que son autorité, doit s'exercer en vue du bien de la famille. Et le bien de la famille, c'est en tout premier lieu le bien des enfants, c'est-à-dire l'éducation. Donc lorsque le père éduque ses enfants, il fait précisément ce pourquoi il est père, ce pourquoi il est chef. Nous avions vu la dernière fois que l'enfant, le but du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. La procréation en vue de l'éducation. Donc l'éducation est cause finale de la procréation et fin de la procréation, donc c'est vraiment le principal. Et c'est vraiment le bien commun de la famille. Ce qui fait que l'éducation de l'enfant, puisqu'elle pense qu'elle coïncide avec le bien commun de la famille, en grande partie, eh bien, elle ne pourra pas se faire en dehors de la famille. C'est grâce à la famille qu'on va éduquer l'enfant. L'enfant ne pourra pas être éduqué en dehors de la famille. La famille n'est pas un obstacle pour lui, c'est une aide. L'exercice de l'autorité va se faire de plusieurs façons. Dans l'ordre naturel et aussi surnaturel, c'est par la parole et par l'exemple. Dans l'ordre spécifiquement surnaturel, c'est par la prière et le sacrifice. Je passe sur ce deuxième point, mais qui est très important, je vais revenir très rapidement, il est sûr que l'exercice de l'autorité dans l'éducation doit passer par la prière et le sacrifice. Le père doit prier pour être un bon père, pour bien éduquer ses enfants, pour que ses enfants reçoivent bien son éducation. Cette fonction de prière du père est très importante. Lorsque le père va à la messe, ou la mère, lorsqu'elle va à la messe, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle dit son chapelet, elle fera bien de se dire « je vais prier pour mes enfants, mais pour l'éducation que je donne à mes enfants. » Pour bien les éduquer, pour qu'ils profitent bien de leur éducation. Il y a un rôle spécifique de la prière du père ou de la mère, dans l'éducation. Et pareil pour le sacrifice. Enfin, le père et la mère le savent bien, eux qui savent bien ce que c'est que se sacrifier pour leurs enfants. Effectivement, il faut se sacrifier pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Il y a là un rôle tout à fait surnaturel, analogue à celui, c'est-à-dire comparable à celui que notre Seigneur a dans l'Église. Notre Seigneur est chef de l'Église, eh bien, il a prié pour l'Église. Prié pour l'Église. Eh bien, le père et la mère doivent prier pour la famille. prière en famille n'a pas seulement pour but de montrer aux enfants qu'il faut prier, mais elle est une prière pour la famille, pour l'éducation donnée dans la famille. Prière, sacrifice, surtout pour la famille chrétienne. En deuxième lieu, c'est l'exemple. Alors en fait, en soi, c'est le plus important. On dit bien « verba movens exempla traunt ». Les paroles, ça entraîne, mais les exemples, ça entraîne mille fois plus. C'est-à-dire que le premier exercice de l'autorité après la prière et l'exercice, c'est d'abord d'être un modèle. Alors évidemment, monsieur l'abbé, c'est pas facile. Ça c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est la sainteté des parents. Et à vrai dire, pour être un bon parent, il faut être un saint, en fait. C'est clair. Mais c'est partout pareil. Pour être un bon prêtre, il faut être un saint prêtre. Pour être un bon enfant, il faut être un saint enfant. Parce que la bonté et la sainteté, hein, chez saint Thomas, c'est la même chose. Évidemment, comme on n'est pas des saints, on fait ce qu'on peut. Donc faisons ce que nous pouvons. Mais ce faisons ce que nous pouvons, c'est précisément ce que nous pouvons. La sainteté des parents est une chose absolument capitale dans l'éducation des enfants. Les ordres, les sanctions, les récompenses ne suffisent pas. Alors cette sainteté, en fait, ça mériterait non pas une conférence, mais une multiplicité de conférences, parce que c'est toute la vie chrétienne. La perfection des parents dans la vie chrétienne, eh bien, on peut la voir pour la sanctification des parents, tant que ce sont des hommes et des chrétiens, mais aussi on peut la voir pour la sanctification de toute la famille et pour l'éducation des enfants. Bien se dire que plus les parents sont parfaits, plus les enfants le seront, parce qu'ils regardent. Un certain Marcel Jousse, qui était un sociologue français, a dit « L'homme est un être naturellement mimeur. » C'est-à-dire qu'il mime. Il a développé énormément le fait que l'homme progresse beaucoup par le mime. Il imite. Et les parents imitent leurs enfants, bien plus que les parents ne pourraient le penser. C'est pour ça qu'on retrouve assez souvent des tics des parents chez les enfants. Et donc, l'exemple des parents, le contre-exemple évidemment, va avoir une influence décisive sur les enfants. C'est clair. Un père, une mère qui a l'esprit de foi, qui est patient, qui est bon, charitable, renoncé, prudent, tempérant, juste, obéissant, humble, c'est tout du bon pour les enfants. Qui regarde. La première chose. Et si le père et la mère sont plus parfaits et parlent moins, ils auront une influence beaucoup plus grande que s'ils sont moins parfaits et parlent plus. Parce que c'est d'abord ça qui attire. L'enfant a besoin en particulier d'admirer son père et sa mère. Il procède souvent par admiration. Plus évidemment on avance dans l'âge adulte, moins on admire. Souvent parce qu'on se voit un grand personnage. Mais l'enfant, lui, évidemment, il ne se sent pas un grand personnage. Donc, il regarde et il imite, il admire. Il a besoin d'admirer. Il faut qu'il puisse admirer son père et sa mère. Alors, ça demande évidemment d'éviter les défauts, de combattre les défauts. Il y a tout un travail pour combattre ces défauts. En particulier les défauts les plus marquants. Donc ça, c'est la partie négative. Ensuite, toujours dans cet exemple, je voudrais parler de deux choses particulièrement. La première, c'est le fait qu'il faut pratiquer ce qu'on demande. Ça, c'est important. On demande quelque chose, est-ce que je le fais moi-même? Si un jour, je me rends compte que je ne fais plus quelque chose, alors il faut éviter de le demander. Je me rappelle des enfants qui avaient un père qui n'était pas pratiquant et qui n'avait pas la foi. Et leur mère l'avait et elle éduquait les enfants comme il fallait, le père laissait faire. Et la mère me dit un jour, mais en fait, un jour, le père vraiment coopère et puis un jour, il a vu que l'enfant ne faisait pas son bénédicité. Elle a dit, tu ne fais pas ton bénédicité, fais ton bénédicité. Quand même un père qui était coopérant. Et l'enfant du tac au tac, et toi tu ne le fais pas non plus, alors pourquoi tu me demandes de le faire? Alors, l'enfant a un certain culot, ça c'est sûr que. Il n'aurait pas dû répondre comme ça. Mais ça montre bien que eh bien, les enfants ne sont pas dupes. Les enfants ne sont pas dupes. Il n'y a rien de plus qui les révolte le plus de voir qu'on exige avec une autorité terrible et en colère des choses qu'on ne fait pas soi-même. C'est l'injustice. On conçoit ça comme injustice. Alors évidemment, il faut distinguer. S'il y a des devoirs absolument essentiels, il n'y a pas d'autre moyen que de dire à l'enfant de les accomplir. Donc, la première chose, pratiquer ce qu'on demande. Deuxième chose, particulière à l'autorité. L'autorité, c'est le comportement du chef, et donc il doit y avoir une dignité, une certaine noblesse dans l'attitude de celui qui a l'autorité, donc dans le père et la mère. C'est important. Des vertus particulières qu'on a à retrouver comme exemple chez le père et la mère, c'est la dignité et la noblesse. Parce qu'elles provoquent l'estime. La vertu, une certaine dignité, une maîtrise de soi, une fermeté toujours calme, une contenance vertueuse, relèvent les parents aux yeux des enfants, ravissent l'estime et affirment l'autorité. Et on peut obtenir beaucoup de choses par ces comportements. Souvent, quand on a besoin de se mettre en colère, quand on a besoin de crier, c'est parce qu'on a manqué à ces vertus élémentaires du comportement de soi. L'enfant, lorsqu'il sent que le père et la mère se maîtrisent, eh bien, est tenté de leur respecter leur autorité. Parce qu'il se dit, insensiblement, il voit quand une personne a la maîtrise d'elle-même, il dit, oh, elle a l'habitude, c'est inconscient chez lui, c'est pas formulé comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Elle a l'habitude de se gouverner elle-même, donc si elle se met à le gouverner, c'est un peu un gouvernement quand même. Eh bien, il va falloir que j'obéisse. Par contre, la personne qui a l'habitude de se laisser aller, eh bien, l'enfant sait très bien, il dit, bon, il me commande des choses, mais lui-même, papa, c'est pas toujours ça. Hein. C'est pas toujours ça. La maîtrise de soi, la fermeté toujours calme. Don Bosco, à Turin, pouvait partir avec 300 prisonniers, seul en promenade pendant toute une journée, sans surveillance, sans garde de prison, et les ramener tous à la prison. Et pourtant, il y avait un mode d'exercice de l'autorité précisément très bénin. Mais par son exemple, hein, il gagnait l'estime et donc l'obéissance. Et donc il faut éviter tout ce qui enlève la dignité et la noblesse, comme les propos grossiers. Propos grossiers. Là souvent, je me permets de dire, il n'y a pas assez d'exigence chez les parents. On se permet des mots qu'on ne devrait pas dire. Alors on classe, on dit, bon, ça c'est un mot que je peux dire, ça c'est un mot que je peux pas dire. Non. Alors, il peut y avoir la faiblesse, si vous voulez, mais ça c'est autre chose. Mais déjà, avoir les idées claires. Par exemple, on considère que dire le mot de cambrure en famille, ça peut se faire. Je me rappelle avoir vu une personne qui nous aidait dans les coissons du ZDK, elle faisait bien par ailleurs, mais quand elle était avec les enfants, elle sortait de leur pluriel de boue comme ça, pour se faire obéir. Alors une fois je lui dis, vous savez, est-ce que vous ne pourriez pas faire un peu attention, monsieur, je sais pas. Ah bon? Oui, dans notre famille, tout le monde en disait. Mes parents, mes frères et sœurs, tout le monde en disait. Donc je ne peux pas me corriger, j'ai compris l'habitude. C'est embêtant. Les parents. Les propos grossiers. Bon, évidemment, c'est pas forcément dramatique, mais il faut faire attention à ça. Les jurons, les excès dans la boisson. Ah non, parce que le père voit le fils voit le père qui rentre pas en marchant droit. La vulgarité, les accès de colère, la vulgarité. Comportement. Comment il ne s'agit pas d'être figé, guindé. Il faut avoir la connaissance de la dignité de sa vie chrétienne, comme dit Saint Léon le Grand. Les accès de colère, etc., constituent, eh bien, petit à petit, une conduite non exemplaire. Donc voilà cette chose dans laquelle on pourrait insister beaucoup, mais c'est le premier exercice, après la prière et le sacrifice, le premier exercice de l'autorité des parents, c'est par la conduite exemplaire. Ensuite, le premier exercice, la prière et le sacrifice, ensuite la conduite exemplaire, et ensuite, troisièmement, l'acte spécifique à l'autorité qui est le commandement, l'ordre. En effet, le responsable d'une société a pour mission, hein, regardant les choses comme saint Thomas les d'Aquin les regarderait, a pour mission de conduire la société à sa bonne fin. Donc il doit ordonner. Le père de famille est responsable de l'ordre dans la famille et de l'éducation des enfants. Donc c'est lui qui doit être dans l'ordre. On attend cela du père et de la mère comme son associé dans cette marche de la famille. Donc il faut mener cela à bonne fin. Donc ça nécessite eh bien la parole. La parole pour bien demander les choses, donner des ordres, parfois récompenser, parfois punir, parfois reprendre, parfois enseigner, parfois parler. Alors, l'aspect surtout qui semble important de développer, c'est la question précisément du commandement. Du commandement. Donc, je voudrais développer ça surtout ce soir. La question du commandement, parce que c'est un exercice de l'autorité qui souffre le plus aujourd'hui, sans aucun doute. Alors, comment commander ? Comment commander ? D'abord, il faut avoir la tête claire. Avoir la tête claire, ça veut dire d'abord éviter les mauvais principes. Les mauvais principes qui aujourd'hui circulent un peu partout. Alors je t'en donne quelques-uns parce qu'on pourrait en donner beaucoup plus. Exemple de mauvais principes. Il faut que l'enfant s'émancipe, se prenne en charge. L'enfant devra se prendre en charge. Or, plus je mets d'autorité, moins il peut s'émanciper. Et donc moins il peut être éduqué. Donc il faut que je mette le moins possible d'autorité. C'est un sophisme. L'émancipation véritable demande l'âge adulte. Avant l'âge adulte, il n'y a pas d'émancipation. Mais il y a une éducation à la responsabilité. Mais l'éducation à la responsabilité nécessite l'autorité. Autre faux raisonnement, ce qui compte d'abord dans l'éducation, c'est l'épanouissement. L'enfant doit s'épanouir, hein, sans Rousseau. Donc moi, mon but, c'est de rendre les enfants heureux. C'est vrai, mais ce n'est pas le principal. On dit que l'objectif, c'est le principal. Donc, pour que leur caractère s'épanouisse, il faut la liberté. Il faut que l'enfant se sente les coups défendus, je crois. Donc, or, liberté et autorité se contredisent. Plus je mets d'autorité, moins il a liberté. Donc, je mets peu d'autorité, il aura beaucoup de liberté, il va s'épanouir, il sera heureux. Réponse. D'abord, l'épanouissement n'est pas ce qu'il y a de primordial. Le primordial, c'est la vertu, confère la première instruction. Deuxièmement, la liberté est donnée à l'homme pour arriver à sa finalité, c'est-à-dire à la vertu. Donc, la liberté de l'enfant, elle est pour sa vertu. Or, la vertu de l'enfant, c'est dans la famille qu'elle se développera. Et la famille n'est pas sans autorité. Donc, l'autorité est au service de la liberté. On ne peut pas perfectionner sa liberté et en user bien sans autorité, ne serait-ce que l'autorité divine déjà. L'autorité et la liberté ne s'opposent pas. C'est pas plus l'autorité brime, plus on a liberté, évidemment. Mais plus l'autorité est autorité, c'est-à-dire plus elle est dans son ordre et à sa place, plus on est libre. C'est très très important. Autre idée, le respect est contraire à l'affection. Si je me fais respecter de mes enfants trop, eh bien je ne m'en ferai pas aimer. C'est évidemment faux. Si je tyrannise mes enfants, je ne m'en ferai pas aimer. Oui, si je me fais respecter mes enfants, je ne me ferai pas aimer, c'est faux. Autre idée, l'égalitarisme. C'est moins une idée qu'une pratique. Cette idée selon laquelle si j'exerce trop mon autorité, alors, eh bien, je serai plus l'égal de mon enfant. Or, je suis l'égal de mon enfant. Nous sommes tous les deux des hommes, répond Platon. Lorsque l'intérieur des familles est en proie à cette insolente égalité, tout jusqu'aux animaux semble respirer l'anarchie. Le père craint et respecte son fils, et le fils traite bientôt le père comme son égal. Donc, ôter ces mauvais principes, voilà ce qu'il nous faut faire. L'autorité nécessite l'inégalité. Celui qui a l'autorité, le père et l'enfant, c'est pas égal. Il y en a un qui est supérieur. Sous le rapport sous lequel il a l'autorité. On ne dit pas qu'il est nécessairement plus sain. C'est un autre problème. Il est supérieur en tant qu'il est père, en tant qu'elle est mère. Donc, l'égalité est incompatible avec l'autorité. Et l'autorité est précisément ce qui, bien compris, bien vécu, favorise le respect, l'affection, la liberté de l'enfant et son véritable épanouissement et bonheur. Donc attention aux mauvais principes qui circulent en raison de la crise d'autorité dans laquelle nous vivons et qui fait que certains parents, ayant une mauvaise conception d'autorité, ne veulent pas exercer l'autorité telle qu'ils doivent l'exercer. On rencontre parfois, par exemple, des parents qui éduquent très bien leurs enfants et des commentaires sur ces familles. Par exemple, telle famille dira « Oh oui, ces enfants, c'est sûr, mais ils sont brimés, ils sont trop coincés. » Les parents, effectivement, exercent cette autorité d'une façon très traditionnelle. Finalement, c'est celle que mon grand-père a bénéficié. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Je trouve qu'il faut avoir plus de liberté. Attention. Assez souvent, ce sont des faux raisonnements. Assez souvent, ce sont par exemple des raisonnements qui portent sur les enfants militaires. Or, c'est pas que être militaire, nécessairement, ça veut dire qu'on est un bon éducateur, premièrement. Deuxièmement, c'est pas qu'une famille, c'est la caserne. Loin de là. Et le père qui fait avec ses enfants comme avec ses sergents-chefs, évidemment, on s'en sort, on s'en sortira. Mais c'est vrai aussi qu'on remarque, enfin, une petite expérience, c'est que assez souvent, les enfants militaires sont mieux éduqués que les autres. Or, les militaires, en général, ont un certain sens de l'autorité. C'est bien donc que l'autorité ne s'oppose pas à l'éducation d'un procureur mondial. Monsieur Lavèche, je connais un fils d'officier, sous-officier, il est très mal élevé, bien sûr. Mais l'éducation ne fait pas la règle. Alors attention à ne pas se laisser prendre par les balivernes aujourd'hui concernant l'autorité qui nuirait à l'éducation. Je me rappelle un commentaire, je parlais d'une famille avec une personne, elle me dit « Ah oui, mais lui, alors son père, il a de l'autorité. » Heureusement qu'il en a. Heureusement qu'il en a. Certains vont chercher, par exemple, la popularité, mendier l'affection, sacrifier systématiquement tous leurs droits de supérieur. Parce qu'ils ont peur, en exerçant l'autorité, de fermer le cœur. Et du coup, ils éteignent leur influence. Ils éteignent leur influence. Par exemple, lorsqu'on suggère aux parents de faire telle ou telle remarque à leurs enfants, ou bien de les persuader de faire ceci ou cela, ils répondent « Ah, vous savez, mon fils, je ne peux pas lui dire ce que je veux. » Aujourd'hui, les jeunes gens, on n'ose plus rien lui dire. On ne le contrarie pas parce qu'il serait capable de faire le pire. Si on veut avoir une bonne vision de l'autorité, chers amis, allons voir dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, la façon dont les enfants, dans les grandes familles des patriarches, se comportaient vis-à-vis de leur père. Il suffit de lire ce fameux chapitre 22 de la Genèse sur le sacrifice d'Isaac par Abraham. Abraham, comment Abraham obéit à Dieu, comment Isaac obéit à Abraham. C'est absolument extraordinaire. On a envie de se mettre à l'écran, c'est magnifique. Isaac ne dit rien. Père, où se trouve la victime pour sacrifice? Dieu y pourvoira mon enfant. C'est tout? Je ne demande rien de plus. Je continue. Abraham prend Isaac, il lui lie les mains, il le met sur le bûcher. Il prend l'arbre et il va frapper son fils. Isaac ne bouge pas. Que nous aurions fait la même chose que lui. Alors évidemment, on dira, oui, mais il y a les dons du Saint-Esprit derrière, il y a le bon Dieu qui avait parlé. C'est sûr. Il y avait le bon Dieu qui avait parlé, il y avait les dons du Saint-Esprit, il y avait tout ça. Mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on lit ces beaux passages de l'Ancien Testament, on se rend compte que, sans aucun doute, nous sommes sous la nouvelle loi. Les choses sont différentes, c'est vrai. Mais ceci pris en compte, on est quand même très loin du compte. On est très loin du compte. Ça, c'est clair. Donc, déjà, dans cet exercice du commandement, avoir les bons principes, avoir les idées claires. Deuxièmement, il faut vouloir avoir l'autorité. Et c'est nécessaire, cher père, chère mère aussi, il est nécessaire que vous vouliez avoir l'autorité. Parce que votre autorité est un devoir et qu'elle est nécessaire. Vous ne devez pas fuir devant cette autorité. Celui qui ne veut pas avoir l'autorité, qui ne veut pas être le chef, ne veut pas faire son devoir. Ne veut pas quelque chose de nécessaire à l'éducation de ses enfants. C'est important. cette volonté d'avoir l'autorité. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. On ne peut pas passer à côté de cette autorité. Alors, ensuite, il faut avoir confiance dans sa propre autorité. L'un des grands obstacles à l'autorité, c'est la timidité. Les parents n'osent pas commander, ou alors ils ont peur d'en faire trop. Et on peut avoir peur d'en faire trop. C'est vrai que parfois, on en fait trop. Absolument. Mais parfois, à force d'en avoir peur, d'avoir peur d'en faire trop, on n'en fait pas assez. Et on n'ose plus commander. On manque de confiance dans sa propre autorité, parfois par un manque de foi. Alors il faut demander au bon Dieu cette foi, cette confiance dans sa propre, dans l'autorité que l'on a et que l'on a reçue du bon Dieu. Je cherche le... Voilà. En se rappelant, de temps en temps pour ceux, parce que ça dépend des tempéraments, et des pères ou des mères, ça dépend, plus souvent chez les mères, parfois chez les pères, qui sentent qu'ils ont peu d'autorité naturelle, et alors ils se disent qu'ils vont mal l'exercer, ils ont peur de commander, peur d'exercer leur autorité sur l'enfant. Alors, il faut qu'ils se rappellent d'abord que leur autorité vient du bon Dieu. Donc, vraiment, quand je vais demander ça à mon enfant, quand je vais lui parler, je vais le réprimander, ou bien je ceci, cela, eh bien, je le fais de par Dieu. C'est vraiment Dieu qui m'envoie. Également, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, après cela, eh bien, la pratique. Que faut-il faire dans le concret lorsqu'on a à pratiquer l'autorité in concreto? Alors, la première chose, eh bien, c'est qu'il faut réfléchir avant de parler. Bien souvent, le problème vient de ce qu'on ne réfléchit pas. Simplement à dire, il faut être prudent. Prudent, ça veut dire, je suis dans une situation donnée. Je vais devoir parler, intervenir, pour réprimander, pour encourager, pour donner un ordre, pour organiser, n'importe quoi. Eh bien, je ne dois pas parler spontanément, sans réfléchir. Je dois prendre le temps. Alors, ça n'est pas facile. Pas facile parce que souvent, dans la famille, surtout dans les nombreuses familles, tout vient en même temps de tous les côtés. Il y en a un qui vient de casser une assiette, l'autre qui vient de faire ses besoins, excusez-moi, et alors au même moment. Ensuite, il y a le téléphone qui sonne, il y en a un autre qui n'arrive pas à faire ses devoirs, il y a la cuisine qu'il faut faire, enfin, tout ça à la fois. Alors, très vite, il faut réagir face à cette situation multiple. On est tenté d'envoyer des petites paroles un petit peu dans tous les sens pour essayer de gérer la crise, de faire face. Alors, le risque, évidemment, dans ces conditions, c'est d'avoir des paroles ou des décisions qui sont imprudentes. Évidemment, alors ensuite, l'autorité diminue. D'où l'importance de demander au bon Dieu, c'est une grâce à demander au bon Dieu, cette grâce de la prudence, donc de réfléchir. D'abord, est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Est-ce que ce que je vais dire, comment je vais le dire? Qu'est-ce que je dois demander d'abord? Est-ce que ce que je vais demander, je vais me faire obéir? Alors, quelques principes à ce niveau-là. C'est un petit peu en vrac. D'abord, il faut engager assez rarement l'autorité. Il faut commander, finalement, assez rarement, parce que il ne faut pas commander trop peu, ni trop. Si on commande trop, alors à ce moment-là, ça perd de son sérieux et de sa crédibilité. Il faut donc parler lorsqu'il y a des questions qui en valent la peine. Et dans des ordres dont la sagesse et l'opportunité soient indiscutables. Si on s'engage à fond pour des vétilles, pour des queues de cerises, ou pour des erreurs, c'est-à-dire qu'on a, eh bien, on ne sauvegarde pas l'autorité. La mère qui, en permanence, pour tout, intervient et engage son autorité, jusque par exemple, à chaque fois que son enfant se brosse les dents, il y a un côté de sa dentition qui l'évite, et puis c'est la mère qui se met en colère pour tous les soirs, tout ça, évidemment. Alors qu'à l'occasion, elle lui fait une remarque. Oui, mais ça ne sert pas une remarque primo primi, secundo primi, comme on dit en moral, c'est-à-dire qu'il part comme ça. Quand je laisse faire, on a fini. Certains parleront, peut-être par tempérament ou par impatience, sans arrêt. Pierre, fais attention à ne pas tomber. Tiens-toi bien, regarde devant toi, ne marche pas si vite. attention à la voiture qui passe, enlève les doigts de ton nez, etc., 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 etc. L'enfant est bombardé de remarques en permanence, et il finit par plus entendre les recommandations qu'il fait, les parents n'attachent plus d'importance à ce qu'ils disent, et lorsqu'ils veulent mettre en jeu leur autorité pour des choses un peu importantes, ils s'aperçoivent qu'elle est sans force et n'a plus de prise. Évidemment, il faut aussi qu'elle s'exerce. Il y en a, à force d'avoir peur de trop dire, qui ne disent plus rien. Finalement, l'enfant est laissé à lui-même. C'est une direction qu'il faut donner à l'enfant. Il faut intervenir. Il faut que l'enfant sente que sa mère est présente, que son père est présent. Évidemment, pour ça, il faut être présent. Présent physiquement, présent moralement, attentif à son enfant. La dernière fois, j'étais dans la salle d'un aéroport à Genève pour prendre l'avion. Et puis alors, il y avait devant moi une famille qui s'installait, une petite famille, bon, visiblement, bon, je ne sais pas, ils n'étaient pas catholiques, enfin bon, c'est facile, mais il y a des petites choses. Et bref, mais je peux vous dire que le père, c'était admirable comme il s'occupait de ses enfants. Ils sont restés un petit moment, là, parce que dans le salle d'attente, c'est pas facile. C'est le père et la mère, comment ils s'occupaient de leurs enfants. C'était incroyable. Et pas intervenant pour des bêtises, intervenant pour les choses importantes, juste comme il fallait. Mais l'enfant sentait que son père s'occupait de lui. C'était surtout le père. En général, c'est la mère, le père sort son journal, et plutôt des gosses. Non, là, le père était là, il s'en occupait. Et l'enfant sentait que son père et sa mère s'occupaient de lui. Et puis, son père, ensuite, pas seulement s'occupant de lui pour le réprimander, mais pour parler avec lui, pour jouer avec lui. Donc il va avoir une présence, évidemment. Une présence, c'est très important. Une présence, mais aussi une intervention. Il ne suffit pas d'être présent pour jouer avec lui, pour lui parler, pour lui faire des cajoleries, etc. Être présent pour le diriger. Que l'enfant sache, sente que mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est vraiment ma mère. Elle m'a dirigé, elle m'a apporté quelque chose. Évidemment, avec la tournure particulière à l'autorité maternelle. Donc, intervenir ni trop peu, ni pas assez. Lorsqu'on intervient, il faut être clair. Et pour qu'on parle clairement, il faut avoir conçu clairement. Donc savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'est... Je vais vous faire la prière du soir si vous voulez.
Faire la quête, tu peux la faire.
Réfléchir à ce que l'on va dire pour que la chose soit raisonnable, proportionnée. Vous voyez, souvent, en fait, l'enfant va obéir, mais bon, on peut pas faire des ordres qui sont tout le temps les plus prudents, tout le temps les plus adéquats, etc. Pour moi, d'être un simple, c'est pareil. Et forcément, ce qu'ont demandé les parents, la façon dont le père va organiser les vacances, la façon dont la maman va organiser la tenue de son enfant autour de l'école, etc., ce qu'il va faire. Forcément, il y a des choses qui ne seront pas parfaites. Mais il faut essayer quand même de faire le mieux possible pour que ce qu'on demande aux enfants, la façon dont on l'aide à un petit peu organiser sa vie, soit sage. Soit sage. Souvent, les parents, prenant pas assez de recul, par exemple, un père demandera à son enfant des choses qui ne sont pas raisonnables. Il va lui demander, l'enfant revient du sport, il a fait beaucoup de sport, il est fatigué tout. Son père va lui demander de travailler pendant 2 heures à couper des bûches de bois, etc. etc. Évidemment, il ne faut pas non plus faire des billets, mais il faut réfléchir à ces choses-là. Enfin bon, c'est un petit exemple qui me vient comme ça par la tête. L'important, c'est précisément d'être raisonnable. Demander, par exemple, un père ne s'occupera pas du tout ou une mère ne s'occupera pas du tout des devoirs de ses enfants pendant 5 jours, Et puis le septième jour, il y a un examen. Le sixième jour, elle lui dit, alors tu vas réviser tes examens. Bon, ben, tu vas réviser tes examens. Maintenant, tu vas réviser tous tes travaux aujourd'hui, pour demain. Bon. Mais tu as appris pendant les cinq jours. Ah non, je n'ai pas appris. On ne s'est pas occupé pendant cinq jours de l'enfant, ce que l'enfant faisait. Le sixième jour, on s'aperçoit que c'est la catastrophe. Alors on lui demande de faire l'impossible. C'est ces deux petits exemples, et on pourra en donner une croisée. Évidemment, là, il faut réfléchir autant qu'on peut. Bien sûr, vous le faites, hein, bien sûr. Enfin, je suis là pour vous encourager. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut et ensuite exprimer sa volonté en termes clairs, s'exprimer clairement. Hein. Ne pas prêter à l'équivoque, à aucune erreur d'interprétation. Les enfants pourront en profiter, ou même pour les voir dans quelques cours. Parfois, on va dire les choses, on se sera mal exprimé, l'enfant aura mal compris, légitimement, sans mauvaise intention, il ne va pas faire ce qu'on lui dit, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait ce qu'on lui dit, et tout de suite on lui tombe dessus. Et c'est le père qui est responsable, ou la mère. Il faut bien exprimer ce qu'on a à dire. Et puis il faut prendre au sérieux ce que l'on dit. Il ne s'agit pas de prendre au sérieux tout ce qu'on dit, d'être, comment dire, grave dans toutes les paroles que l'on dit, mais lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on demande à quelque chose à quelqu'un, eh bien il faut un certain sérieux, une certaine énergie. Si on ne prend pas au sérieux ce qu'on dit, comment on va prendre le fait au sérieux? Si par exemple on menace l'enfant de choses qui sont déraisonnables, l'enfant se dira que ce n'est pas sérieux, il ne prendra pas au sérieux lui-même. Si tu ne finis pas la dernière cuillère de soupe que tu as dans ton assiette, eh bien, tu n'iras pas aux vacances pendant trois semaines avec nous chez ta grand-mère. Je caricature. Il faut une certaine. Alors évidemment, il faut l'exercice de l'autorité va être proportionné à la personne. On doit. C'est pour ça qu'il faut une certaine relativité, une certaine prudence. Hein, chacun est père de famille ou mère de famille comme il est. Et l'enfant est enfant comme il est. Donc on ne peut pas. Les parents vont éduquer leurs enfants de façon non monolithique d'une famille à l'autre, c'est nécessaire. Et donc l'autorité va s'exprimer comme elle s'exprime. Par exemple, lorsqu'on reprend l'enfant ou lorsqu'on lui parle, eh bien certains seront plus ou moins énergiques, plus ou moins autoritaires, c'est important. Mais toujours, il faut que l'enfant sente qu'il y a derrière votre parole une véritable énergie et une véritable volonté de se faire obéir. Par exemple, si je multiplie les choses en disant l'enfant est à table, se tient mal, par exemple. Puis après, toi bien. Au fait, la soupe aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a été faite? Alors, il vaut mieux, je crois, ou bien on lui dit rien, ou bien si on lui dit, on lui dit sérieusement. Pierre, tiens-toi bien. L'enfant, s'il sent une résolution dans la parole, évidemment, il dira, bon, mais je vais te dire. Évidemment, cette résolution va être proportionnée à ce qu'on dit, ça va sans dire. Je ne peux pas tout dire, parce que puis tu fais confiance à votre propre jugement. Évidemment, on ne va pas dire, on ne va pas demander à un enfant à l'école, par exemple, de cesser de répondre à ses maîtres, comme on va lui demander de ranger sa chambre, de ranger son lit, parce qu'il est un peu désordonné. Il y a une proportion dans le ton de la voix, dans la résolution qu'on met, mais il faut que l'enfant sente que quand on commande, tout de suite. On commande. Donc ça, c'est la prudence dans les paroles, la façon de parler, la façon d'engager son autorité. Ensuite, une autre considération, c'est un petit peu entre parenthèses, Monsieur l'abbé, j'ai jusqu'à quelle heure, s'il vous plaît. 9h. Donc, on ferme la parenthèse. Ensuite, il faut se faire obéir. Il faut se faire obéir de toutes. Exiger l'obéissance. D'abord, exiger l'obéissance immédiate. Il ne faut pas attendre. Attention à ne pas répéter deux fois un ordre reçu. Normalement, on ne doit pas attendre que l'enfant... L'enfant ne doit pas répéter un ordre. Un ordre qui est répété n'est pas obéi. Même si l'enfant obéit matériellement, il obéit parce que vous avez insisté. Il n'obéit pas parce que vous avez l'autorité. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Mais c'est un objectif d'arriver à cela. Et il y a des parents qui arrivent. Il y a des parents qui arrivent à ce que, ou bien ils disent rien, ou bien lorsqu'ils disent, l'enfant fait. Ils n'ont pas à dire deux fois. Alors évidemment, il va falloir proportionner un petit peu la façon dont on peut arriver à ce but, selon les enfants, mais se rappeler que le bon Dieu, il ne nous dit pas les choses deux fois. Un jeune professeur raconte, j'ai commis un jour l'imprudence de dire à un élève, je vous donne un quart d'heure pour obéir. L'élève tire sa montre, et quand le quart d'heure est passé, il obéit. J'enrageais littéralement, mais je fus corrigé de mon imprudence. Donc il faut exiger l'obéissance immédiate. Il faut demander l'autorité avec constance. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé doit être fait. Si l'enfant n'a pas fait tout de suite, ou alors s'il s'y laisse promener, etc., bon, on arrange tout ça, mais à la fin on dit, bon, tu vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même. Donc l'enfant, par exemple, on lui avait demandé de mettre la table, il n'a pas fait, il est allé jouer. Alors, on le gronde, on reparlera de toutes ces choses-là, hein, mais la façon de réprimander, on n'a pas parlé du tout. On le gronde, bien, et donc il demande pardon, on arrive à table, oui, mais... Tu vas ? Est-ce que j'ai dit mettre la table ? Mettre la table ? Je vais mettre la table. Bon, alors, on ne va pas y passer. Non, la fois prochaine, tu sais tout bien. Qui sentent que, bon, ben, maman, papa, quand il y a une idée dans la tête, elle n'est pas dans les pieds. Excuse-moi l'expression. Donc, ne disons pas de mots grossiers. Donc, il faut que l'enfant sente qu'un oui, c'est un oui. Et c'est pas un non. Alors, quelques obstacles à ces pratiques. Quelques obstacles à la pratique de l'autorité. Premier obstacle, l'injustice, les préférences. Alors, les obstacles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Attention aux préférences. Les préférences ruinent l'autorité. Elles ruinent l'enfant préféré, elles ruinent les autres enfants, elles ruinent l'autorité de celui qui préfère. Elle ruine l'enfant préféré, parce qu'il sent qu'il y a une préférence, il se laisse aller facilement, il devient orgueilleux, facilement méprisant. Les autres, souvent il y a de la jalousie et de la haine, ils ne le montrent pas, et parfois ça ressort. Parfois, des années après, des vieilles personnes vont souffrir à 70 ans, parce que dans leur enfance, elles ont jalousé leur frère ou leur sœur qui était préféré. Ça peut marquer toute la vie jusqu'au lit de mort, la jalousie et la préférence. Évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut faire attention à ce que parfois la préférence est presque impossible à ôter du cœur, mais au moins la manifester moins possible. Donc la préférence, c'est un premier obstacle. Autre obstacle, les manières qui favorisent l'égalité entre les parents et les enfants. Nous avons vu que l'autorité et l'égalité sont incompatibles. Alors attention aux libertés dans le langage, aux familiarités dans les procédés. On est dans la famille, il y a une bonne familiarité, il y a une mauvaise familiarité. Au laisser aller dans la récréation. Par exemple, jouer avec son enfant, c'est bien, mais on ne doit pas jouer avec l'enfant comme l'enfant joue. Rire avec son enfant, c'est bien, mais on ne doit pas rire avec l'enfant comme un enfant rit. L'enfant doit sentir, mon père, ma mère jouent avec moi, rient avec moi, mais c'est mon père ou ma mère. Il faut qu'il y ait une proximité et une distance, les deux à la fois. Regardons notre Seigneur dans l'Évangile. Quel bel exemple. Évidemment, il n'a pas été père de famille. Pas de l'Église, il n'a pas été père de famille. Mais quel bel exemple dans cette proximité, cette distance qu'il avait avec ses apôtres et avec les enfants. Donc il faut une proximité. L'autorité doit être accessible. Le père qui ne s'occupe jamais de son enfant, pour autre chose que pour le réprimander, donne peur. L'enfant s'en détache. Mais il faut aussi une certaine distance. Une certaine distance. Attention à l'égalitarisme contemporain, à l'esprit de révolution qui est passé par là. Donc attention à l'égalitarisme. Il faut toujours une certaine que l'enfant soit obligé de respecter ses parents. Autre obstacle à l'exercice d'autorité, les comparaisons. Les comparaisons. Ça consiste à invoquer l'exemple des autres pour se justifier soi-même d'avoir un désir et d'oser le manifester. Exemple. On demande à François de faire quelque chose à son enfant. François fait ceci. Ah non, je veux pas. Tu sais, François, quand sa maman demande ça au petit Georges, mon copain, eh bien, il obéit tout de suite et Georges va me répondre. C'est pas bon. La comparaison n'est pas bonne, ne serait-ce déjà que parce que l'enfant, à ce moment-là, se dit, mais finalement, est-ce que ma mère n'estime pas plus, François, Georges, que moi? Ensuite, on s'expose à des réponses. Tu sais, la maman de Georges, quand elle parle à Georges, eh bien, Georges, il obéit. Oui, mais Georges, il a tel défaut. On est sur un terrain d'égalité. On n'est plus dans l'autorité. Oui, mais sa maman, elle ne lui demande pas ceci ou cela. Etc. Les comparaisons. Autre obstacle à l'exercice d'autorité, les monologues. Alors ça, c'est la fuite. Lorsqu'on a peur. On a peur d'engager, surtout lorsque l'enfant grandit, on a peur d'engager le rapport avec l'enfant. Ce rapport qui doit être un rapport complexe, fondé d'abord sur l'amour, l'amour des parents et des enfants, mais aussi parfois, surtout avec les garçons, parfois il y a un rapport de force avec le père. Je me souviens, quand j'étais à Saint-Jean-de-Descartes, il y avait un garçon comme ça, qui était danseuse dans ma pupille, il avait environ 15 ans, et c'était ma première année, et je n'étais pas perçu qu'il cherchait ce rapport de force. Vraiment, je ne cherchais pas du tout, évidemment. Et puis, je sentais que ça n'allait pas. Il m'échappait, parfois il se moquait de moi, j'étais prêt à y arriver, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il cherchait le rapport de force. Il fallait qu'il sente que lui, c'était plus fort. Alors, je crée l'occasion, et puis je lui ai. C'était plus fort, quoi. Peu importe dans quelles circonstances. Après, c'était terminé. Il était gentil, mais c'était extraordinaire. Il avait senti que, ben voilà, peut-être qu'il attendait ça, parce que pour lui, c'était m'occuper de lui. Bon, j'espère que je m'occupe de lui de toute façon quand même. Mais, alors, il y a des parents qui vont avoir peur d'engager le rapport avec l'enfant, lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait. Alors, ils vont parler de façon impersonnelle. Donc, François fait ceci. Ah non, je le ferai pas. Oh, qu'il est insupportable. On ne sait plus par quel côté le prendre. Rien ne le touche. On dirait qu'il fait exprès. Ah, le parent fuit l'autorité. Il fuit le rapport. Il parle à une tierce personne. L'enfant le sent. Il a perçu la peur. Alors il peut se comporter de plusieurs façons, répondre, faire silence. Mais déjà, c'est une petite défaite de la part des parents. Le monologue. Autre obstacle, la supplication. La supplication. On emploie des formes qui ne conviennent pas à des supérieurs. On commence par exemple comme ceci. Le père commence par là. Pierre, va me chercher mes lunettes sur la table dans ma chambre. Enfin, pour vous demander une chose comme ça, on ne parle pas comme ça. Pierre, va donc me chercher mes lunettes sur la table dans ma chambre. Non, je ne sais pas où elles sont. Si tu sais, je vais te le dire, elles sont sur ma table, dans ma chambre, sur ma table. Vas-y. Je n'ai pas le temps, je dois finir de ranger mes jeux. Tu n'es pas gentil, tu ne veux jamais faire ce que je te demande. Ça, je pense que ce genre de réaction se voit parfois quand même. Hein. Et le père ou la mère vaincue se résigne à lui-même. Voilà. S'il te plaît, Pierre, va chercher, mais sois gentil. Tu veux me faire plaisir. Ça va pas. Ça va pas. Évidemment, il ne s'agit pas d'être le recteur potens, de terroriser son enfant. C'est pas du tout le. Mais j'insiste plus sur cette question d'autorité parce que de façon générale, évidemment ça peut dépendre des situations, de façon générale, c'est plus ce qui manque aujourd'hui. Ce sens de l'autorité des parents. Donc j'insiste plus là-dessus, vous voyez. Et si ce n'était pas la nécessité, je présenterais évidemment plus volontiers d'autres aspects des choses. Et là, j'insiste parce que c'est clair que de génération en génération, hein, vous me direz que vous n'êtes pas si vieux, ça c'est vrai, mais on a des oreilles. Et de génération en génération, le sens de l'autorité diminue. Ça, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun. Et le sens de l'autorité diminue, et donc le sens de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'autorité. Un enfant, c'est vrai qu'un enfant auquel on n'apprend pas à se soumettre au bon Dieu, à considérer son bon Dieu comme son vrai père, eh bien, il aura du mal à obéir en tout et avoir un très bon comportement dans sa famille, dans sa société, dans son école, etc., etc. Ça, c'est vrai. Mais réciproquement, un enfant auquel on ne donne pas le sens de l'autorité, du respect de ses parents, de ses maîtres, de ses prêtres, vis-à-vis du bon Dieu, vous savez, s'il ne respecte pas, s'il ne sent pas l'autorité de celui qui est visible, comment le fera-t-il vis-à-vis de celui qui est invisible ? Termine encore quelques autres petites pratiques. Monsieur l'abbé, je vous demande 4 minutes, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ailleurs à 8h05. Autre pratique, obstacle à l'autorité, la pratique de l'autorité par le sentiment et les raisonnements. Alors là, je voudrais rentrer dans une fausse argumentation qui fausse complètement les éducations. On dit qu'il faut se faire obéir de l'enfant, non pas par l'autorité et l'obéissance, mais essentiellement par l'intelligence et par le cœur. On ne doit obtenir de ses enfants qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent que parce qu'ils nous aiment, d'une part, et d'autre part, parce qu'ils doivent avoir compris que ce qu'on leur demande est vrai. Et que jamais, si l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui demande, ni s'il ne l'obéit par le cœur, il ne faut qu'il obéisse. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, je trouve. Enfin, vous le savez très bien, d'ailleurs. C'est entièrement faux. Qu'il faille chercher, sans aucun doute, à obtenir ce mouvement du cœur où l'enfant obéit par amour de ses parents, par amour du bon Dieu, et que l'enfant comprenne, oui, mais on doit obéir parce qu'on doit obéir. On doit obéir pour parents. On doit obéir parce que la personne a l'autorité qui représente le bon Dieu. C'est la raison fondamentale. Développons un petit peu. Argument en faveur de l'obéissance par sentiment et raisonnement, c'est que lorsque j'use d'autorité pour me faire obéir, j'interdis à l'enfant de raisonner. Je n'en fais pas un convaincu, j'en fais un vaincu. Je contrarie la volonté. Tandis qu'en parlant au cœur et à la raison, eh bien on forme quelqu'un qui a un bon jugement, une volonté qui se soumet librement. Réponse. Premièrement, ça part de certains principes faux. Je répète, l'enfant doit obéir parce que son père ou sa mère a l'autorité. Et non pas d'abord parce qu'il aime son père ou sa mère. Ni d'abord parce que l'autorité, ce que lui demandent ses parents, est juste et fondé. Et d'ailleurs, on pourrait trouver bien les difficultés qui rendraient un tel mode d'obéissance insupportable et impossible. Bon, je pense qu'on ne peut pas dire. Alors, en fait, il est vrai que le raisonnement et le sentiment peuvent intervenir. En particulier, les parents doivent se faire aimer l'enfant. Et pour ça, il faut qu'ils aiment leurs enfants. Ils doivent accompagner leur autorité de douceur, de bonté, d'amour. C'est vrai que l'enfant respecte mieux l'autorité quand il aime. C'est vrai que l'autorité, ce n'est pas faire de son enfant un serviteur. L'autorité est pour le bien de l'enfant, pas pour notre bien. L'enfant, il n'est pas pour mission, il n'est pas là pour rechercher les lunettes de son père en permanence. C'est vrai que l'autorité demande une abnégation à l'oubli de soi. C'est vrai que l'autorité demande une confiance dans l'enfant. L'enfant ne doit pas avoir de façon perpétuelle l'impression d'être soupçonné, condamné, brimé. Toi, tu ne demandes à rien. Tu n'as jamais rien su faire de bien. Fais attention à ne pas faire ceci. Je te donne l'argent, mais ne va pas voler. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut croire aux bonnes intentions de l'enfant. C'est vrai également qu'il faut l'encourager. Pas seulement lui dire, il faut que tu fasses ceci. Mais lui dire, vas-y, tu peux faire. C'est intéressant ce que tu m'as fait. Tu ne veux pas qu'on fasse ensemble ? C'est vrai tout ça. C'est vrai en un mot que l'autorité doit se mêler de cet amour. Et que l'enfant, lorsqu'il sent, son cœur se dilate quand il sent que son père l'aime. En un mot, il est vrai qu'on peut presque tout demander de son enfant quand il y a cette atmosphère de charité dans la famille, de joie, de confiance, d'ouverture de cœur. C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que Encore une fois, si nous devons obéir au bon Dieu, c'est parce qu'il est le bon Dieu et qu'il est notre chef et notre père. Et de même, si l'enfant doit obéir à ses parents, c'est d'abord pour ça. Alors, le raisonnement, il peut intervenir, mais pas dans le motif. Ce que conseillent les éducateurs, par exemple, c'est qu'il intervienne après. Va faire ceci. Mais pourquoi ? Je me rappelle quand j'étais à Saint-Joseph, un enfant jument, faites ceci. Pourquoi ? Pourquoi ? Deuxième fois. J'ai pas répondu. Troisième fois. Pourquoi ? J'ai pas répondu. Il est parti. Bon, j'aurais peut-être pu répondre, j'aurais pu expliquer, mais peu importe. Hein. Mais en tout cas, non. Ensuite, après, alors, vous voyez, ce que je vous ai demandé, c'est pour telle raison. Et vous allez d'abord faire, et ensuite vous expliquerez. Mais on n'obéit pas d'abord parce que la personne. D'abord parce que la chose est bonne et juste. Donc voilà quelques exemples de ce qu'il faut éviter. Bon, il y aurait beaucoup d'autres défauts à dire très, très concrets, mais bon, on ne peut pas tout dire à la fois. Alors, demandons au bon Dieu, c'est une grâce, cette autorité, ce sens de l'autorité. Donc, encore une fois, j'ai voulu insister plutôt sur cette nécessité d'exercer l'autorité aujourd'hui, parce qu'on a plus souvent le sens, ni vous ni moi, je veux dire, il s'agit de balayer devant sa porte. C'est une nécessité, dans le cadre dans lequel nous vivons, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, de remettre dans sa légitime place l'autorité, qui est finalement l'exercice du bien. Celui qui a l'autorité, il est celui qui, dans la société, fait le bien de la société, même la société à son bien. Le père de famille, la mère de famille, eh bien pour eux, avoir l'autorité, c'est faire le bien de la famille. Nous ne disons pas, je fais bien la famille et je dois aussi avoir l'autorité. Non, c'est la même chose. Demandons à notre Seigneur de nous y aider, hein, demandons à Saint Joseph, demandons à la Sainte Vierge, et demandons au bon Dieu, hein, qui exerce cette autorité de façon magnifique, qui nous en a donné des exemples dans toute la Sainte Écriture, hein, des exemples en lui-même, et il a fait faire cet exercice de l'autorité familiale à ses serviteurs, hein, encore une fois, allons lire ces beaux exemples, magnifiques exemples, hein, des grands patriarches d'Abraham, de Noé, d'Isaac, de Jacob. Bon, après Jacob, c'est un peu différent. À partir des fils de Jacob, ça commence à un peu déraper, pardonnez-moi l'expression. Dans le Nouveau Testament, hein, regardons les grands pères de famille, les grands pères de famille, les saints pères et mères de famille, hein, que l'Église nous offre à notre modèle. Moi, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui. Une question, donc quand on pose la question pourquoi, oui. Là vous n'avez pas répondu, mais certains disent c'est comme ça, il me semble que ça c'est vraiment anti-pédagogique.
Oui, c'est vrai.
Donc soit on dit la raison, voilà. Soit on dit rien, mais de dire voilà. Obéir pour obéir, c'est aussi. Voilà.
Alors si l'enfant il sait qu'il ne doit pas demander pourquoi, alors on peut se taire, si vous voulez. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il doit savoir pourquoi je me tais, quoi. Notre Seigneur d'ailleurs, c'est notre exemple, ne répondait pas à toutes les questions. Mais par contre, s'il ne sait pas, il faut lui dire. Je te demande ça parce que je sais que c'est bien pour toi, et puis parce que tu sais que tu dois faire ce que je demande, et donc tu n'as pas besoin d'attendre que je t'ai dit, que j'explique pourquoi tu dois faire ça pour le faire. Puis ensuite, si tu veux, attends, je t'expliquerai. Effectivement. Mais si on essaie de persuader l'enfant en disant, bon, alors tu vas faire ça parce que ceci, ceci et cela. Alors parfois l'enfant ira, il dit, ben oui, effectivement, moi j'ai raison. Et parfois il dira, mais non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Ah non ? Oui, oui, parce que je sais qu'il y a ceci, cela, et ça serait mieux de faire ça. Ah oui, on prend le risque.
C'est dangereux en fait d'entrer en discussion.
Parce qu'alors l'enfant va dire, ceci, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, évidemment, la solution, c'est le parent, ça va sauter le fil gaffe, il dit, bon, mais je t'ai dit, vas-y. Ah oui, mais il y a des vitesses. Ou alors il va dire, mais non, 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 en fait, la bonne mesure, c'est celle que je te demande. Alors, bon, un peu du coup, quoi. Bon. Alors, évidemment, je veux dire, là, on voit les choses de façon idéale. Ce qui est vrai, c'est que dans la pratique, il arrivera toujours aux parents de sortir ça, c'est normal, je veux dire, c'est pas catastrophique. C'est pas tout dérapage, mineur dans l'éducation, enfin, est-ce qu'il est besoin de dire qu'il y a des conséquences. Mais effectivement, cette question de vraiment du sens d'autorité est importante, parce que, vous voyez, là, ensuite, il faut bien se dire qu'on fait des futurs pères de famille et des futurs chrétiens. Ensuite, quand on se retrouve à l'âge adulte, si on obéit au bon Dieu, si on attend, parce qu'ensuite, quand on arrive à l'âge adulte, donc on doit assurer sa fidélité, sa persévérance finale et faire le bien autour de soi, etc. Et si on attend pour obéir à ce que le bon Dieu nous demande, d'avoir compris de bien fonder ce qu'il nous demande, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Alors évidemment, il faut essayer, attention, hein. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Et donc, un enfant, un être humain n'obéit pas, évidemment. Donc, c'est, vous voyez, c'est pour ça, c'est, à chaque fois, il y a multiple choses qu'on pourrait dire, mais un enfant, un être humain n'obéit pas comme une machine répond à celui qui l'a mis. C'est évident, c'est clair. Donc, le mieux, c'est d'obéir en ayant compris le bien fondé de ce qu'on demande et d'obéir intelligemment, évidemment. Il faut favoriser l'obéissante intelligence, l'esprit d'initiative, bon, c'est des choses qu'on a pu développer. Mais encore, je reviens à ce que je vous disais au tout début, hein, c'est-à-dire que nécessairement, quand on développe un aspect en mineur, à peu près, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas dire et qui sans doute font que l'exposé est incomplet. Et donc, il ne faut pas que ça fausse les choses. C'est pour ça que la lecture est importante. Mais ce qui est vrai, ce qui n'en reste pas moins vrai, c'est que le vrai motif de l'obéissance, c'est le bien de ce qui est demandé, qui est garanti par l'autorité de qui le dit.
Oui ? J'ai une autre question. Vous avez dit que de rajouter « s'il vous plaît » après la norme, c'était un peu amoindrir son autorité. Et bon, moi, je le fais de temps en temps, mais je n'ai pas l'instant. J'ai pas l'impression que ça amoindrit mon autorité, mais comme on demande aux enfants de dire s'il vous plaît après quelque chose qu'ils demandent eux, dans ce sens-là, on le fait aussi, mais est-ce que ça écoutera l'autorité moi là.
Alors, moi, je crois, je répondrai de deux façons. D'abord, quand on s'adresse à mon enfant, on ne s'adresse pas à son enfant, évidemment, que pour lui donner des ordres. On en parlera lors des prochaines instructions, il y a tout un tas de choses, des relations entre les deux parents et les enfants. Mais lorsqu'il s'agit de lui demander quelque chose, concrètement, d'abord, on peut lui demander quelque chose, un service, et on peut lui donner un ordre. Il peut très bien qu'on demande un service à un enfant sans lui donner un ordre. C'est pas du tout au contraire. Au contraire. Et d'ailleurs, c'est bon. Donc déjà, certaines fois, on lui dira, est-ce que tu peux faire ceci, s'il te plaît ? Mais ça ne sera pas forcément un ordre. Donc là, j'ai développé, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le commandement. Mais même dans le commandement, parfois on pourra dire s'il vous plaît ou s'il te plaît. Même dans le commandement, mais il y a une façon de dire s'il te plaît. Alors évidemment, je ne dis pas que fais ceci, s'il te plaît. C'est un s'il te plaît qui n'est pas un s'il te plaît. Mais il y a des s'il te plaît qui sont des vrais s'il te plaît et qui sont des commandements quand même. Bon, ça c'est les mille et une facettes de. Non, là, si vous voulez, encore une fois, l'exposé peut vous paraître insister beaucoup sur ce rapport d'autorité et de commandement, de supériorité des parents, et c'est bon, c'est à dessein. C'est vraiment voulu que j'ai voulu développer cet aspect. C'est vraiment, j'assume complètement, mais je pense que c'est nécessaire parce que ce sont des choses, si vous voulez, qui sont plus claires aujourd'hui. Alors évidemment, toujours, encore une fois, on court le risque de passer à côté d'autres aspects et on est forcément incomplet. Mais je crois que l'un des plus grands mots aujourd'hui, il est là. Il y en a d'autres. Évidemment, j'aurai l'occasion, on parlera par exemple de la charité entre les parents et les enfants, de cette intime confiance, presque de cette amitié qu'il doit y avoir entre les parents et les enfants, avec en même temps cette autorité. Mais bon, c'était pas mon propos d'aujourd'hui. Je l'ai dit parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes pour avoir cette vision globale des choses. Mais assez souvent, en fait, quand il y a beaucoup d'autorité dans une famille, si ça se passe mal, je crois, hein, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'autorité, c'est parce qu'elle est mal exercée ou parce qu'il manque d'autres choses. il me semble. Alors, je ne rentre pas dans les questions, qu'est-ce qui est mieux, trop d'autorité ou pas de passer d'autorité. Je crois que c'est un... Il faut poser la question, qu'est-ce qui est mieux, la place de choléra, quoi, c'est... Mais souvent, aujourd'hui, il y a notre mentalité un peu révolutionnaire qui est passée par là et qui fait que... Eh bien, on a... Bon, ça dépend. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout besoin qu'on leur dise ce que je vous dis. C'est clair. Et puis d'autres, ils ont besoin. Et puis, sans doute, peut-être, vous faites tous déjà les choses parfaitement. Et je pourrais me mettre de ce côté, et vous ici, c'est peut-être. Mais en attendant, c'est moi qui suis là. Donc, c'est parce qu'il y a d'autres questions. Il y a, je vous ai parlé du livre de M. Violette, qui est assez intéressant. Qui est un petit peu qui est un style moderne, un petit peu moderne, mais qui est bien, qui a été chez Clovis. Et puis il y a les actes pontificaux dans les éditions Soleil, il y a tout un volume sur l'éducation qui est. Alors là on est vraiment dans la parfaite conception catholique de l'éducation. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame du Bon Conseil, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.